Et notre invité ce matin dans le 8-30, Maître Priscilla Botrel, bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Les Roms noirs qui ont durci depuis plusieurs jours leur mouvement contre la réforme des retraites. Vous venez de démarrer votre bâtonnat, finalement, dans un contexte un peu particulier aujourd'hui. Le Conseil national des barreaux a indiqué ce vendredi poursuivre la grève dure hein, face à la réforme des retraites. Ce sera le cas aussi dans les Hautes-Alpes ?
Alors, pour être totalement transparente avec vous, je dois tenir une assemblée générale extraordinaire tout à l'heure à midi pour justement décider de la suite du mouvement avec mes confrères. Bien entendu qu'il n'y a pas de volonté d'aller à l'encontre de ce que dit le Conseil national des barreaux, puisque là maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet et selon moi, il faut absolument suivre le mot d'ordre donné par le Conseil national des barreaux, qui est notre instance nationale, qui nous représente au plus haut, qui est l'interlocuteur privilégié du ministère. Après, on peut toujours discuter la forme et les actions qu'on peut mener barreau par barreau, mais sur le mot d'ordre... je suis quasi certaine qu'il sera suivi.
Discuter, justement, ce mot va être très employé cette semaine puisque des discussions vont être ouvertes entre le Conseil national des barreaux et le gouvernement. Cette question de comment se sont passées les concertations, parce que le gouvernement avance que dans cette réforme des retraites, il y a eu des concertations qui ont été menées avec les syndicats durant 6 mois. Est-ce que ça a été le cas avec les Roms noirs ?
Non. Et le Conseil national des barreaux s'est souvent défendu sur ce point parce qu'effectivement, on remarque, en tout cas du point de vue des avocats, hein, parce que je m'exprimerai que du point de vue des avocats, puisque c'est ce que je connais le mieux, du point de vue des avocats et du Conseil national des barreaux, il n'y a pas eu véritablement de concertation. En fait, on a eu un rapport de Levoix qui est sorti en juillet. À partir de ce rapport, devait s'ouvrir une période de concertation. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et que finalement, le Conseil national des barreaux a réussi à ouvrir une brèche et à avoir une véritable discussion avec Madame Belloubet, le garde des Sceaux. Finalement, que la semaine dernière, après une première semaine de grève dure. Et c'est véritablement là qu'une discussion s'est ouverte et qu'on entrevoit
une issue.
On entrevoit des choses. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Mais c'est là-dessus que les avocats se défendent parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de campagne de désinformation qui a été menée par ce gouvernement vis-à-vis des avocats, en disant finalement, en faisant savoir à l'opinion publique que finalement, les avocats, en quelque sorte, soit ne comprenaient pas, soit mentaient en disant qu'il n'y avait pas de concertation, alors que le gouvernement, de son côté, disait « mais si, nous menons des concertations », alors que non. Parce que, bien entendu, que s'il y avait eu des concertations et des concertations constructives, on n'en serait pas là.
Alors, pour expliquer aux auditeurs pourquoi les avocats s'opposent à cette réforme des retraites, ce que vous mettez en avant, c'est qu'on doublera vos cotisations et les pensions baisseront par la suite.
Oui.
Vous avancez certains chiffres, ils seront plus d'un sur deux à mettre la clé sous la porte. Mais est-ce que vous êtes vraiment perdant à passer au régime universel ? Je m'explique. C'est une étude qui a été réalisée par le cabinet Ernst & Young, qui est en date du 9 décembre, qui a été donnée au Conseil national des barreaux durant ce mois de décembre. Et selon cette étude, les avocats feraient partie des indépendants qui auraient le plus à gagner sur cette nouvelle assiette de cotisations. Je vais résumer, les cotisations augmenteraient de 7 points en 20 ans, mais les pensions croîtraient de l'ordre de 20%.
Alors écoutez, moi pour ma part, j'avancerai d'autres chiffres. J'ai trouvé là ce week-end une petite étude, en tout cas un petit exemple qui n'est pas inintéressant, qui est plutôt significatif, qui a été donné dans le Point par Madame Christiane Ferral-Schul, qui est notre présidente du CNB, qui a utilisé pour faire cette démonstration un avocat par exemple qui gagne 24 000 euros par an.
Ça représente qui, un avocat qui gagne 24 000 euros par an ?
Alors, il faut savoir que actuellement, le revenu médian des avocats en France, il est de l'ordre de 40 000 euros. 40 000 euros. Donc là, 24 000 euros par an, on est plutôt sur un avocat qui
débute.
Qui débute. Mais il est quand même parlant, cet exemple-là, parce qu'aujourd'hui, les cotisations de cet avocat qui gagne 24 000 euros par an, elles sont les cotisations retraite, j'entends, on est d'accord, sont de l'ordre de 3 744 euros, Avec la réforme, elles passeront à 6 748 euros.
Donc elles doubleront.
Mmh. Et la pension de cet avocat, lorsqu'il pourra liquider ses droits à la retraite, s'il liquidait ses droits à la retraite aujourd'hui, sa pension serait de 20 690 euros par an. Mmh. Or, avec la réforme, ça tombera à 14 021 euros par an. Cet exemple-là, il est quand même...
Il est probant, en effet, il avance des arguments. Mais par contre, je vais revenir sur votre revenu médian, vous le disiez. Le revenu médian actuellement des avocats, c'est 40 000 euros. Oui. Justement, ce que je vous avançais comme différence au niveau des pensions, c'est pour un avocat qui gagne 43 000 euros par an en début de carrière en 2025. La cotisation liée serait de 8 200 euros en 2025 contre 6 700 euros aujourd'hui, puis 13 800 euros en 2045 contre 8 800 euros aujourd'hui. Mais la pension versée sera de 3 200 euros contre 2 700 aujourd'hui. Ça s'explique parce que les avocats paieront plus de cotisations retraite, mais moins de CSG.
Alors,
on s'y retrouve difficilement dans ces chiffres, mais en tout cas, c'est aussi probant.
Et puis, la problématique de la CSG, elle est quand même importante parce qu'effectivement, l'État a dit on contrebalancera par une baisse de la CSG, mais on sait que la CSG, c'est une promesse... C'est un peu un vœu pieux, puisque à chaque année, la CSG, elle peut être vue à la hausse, à la baisse.
Elle n'est pas fixe.
Voilà. Mmh. Et donc, cette promesse par rapport à la CSG, je ne suis pas certaine que ça puisse tenir dans le temps. En fait, la vraie problématique dans cette réforme des retraites, c'est que il faut prendre des. Je pense qu'il faut être précis. Il faut prendre des chiffres. Il faut véritablement raisonner en termes de chiffres. Et cette fameuse étude là du cabinet Ernst & Young. Moi, j'aimerais bien savoir quand même. Comment ils ont posé leurs chiffres, quel exemple ils ont pu prendre, puisque j'avais vu sortir un exemple d'un certain François avec ses 40 000 euros en tout début de carrière, mais en fait, je crois véritablement que les personnes qui ont pu travailler cette réforme en amont n'ont pas véritablement conscience de ce qu'est la réalité du travail d'avocat aujourd'hui. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le revenu médian de l'avocat aujourd'hui est à peu près à 40 000 euros.
Mais pas au début de sa carrière.
Pas du tout au début de sa carrière. Et vous avez des avocats qui, après des années de travail, ont encore des revenus qui sont... Peu important, notamment les confrères qui travaillent à l'aide juridictionnelle. Les confrères qui travaillent à l'aide juridictionnelle, et il y a des confrères qui, toute leur carrière, ont travaillé à l'aide juridictionnelle par choix, par conviction, parce qu'on a prêté le serment d'avocat pour venir en aide aux plus démunis. Et c'est tout à fait louable. Mais cet avocat-là qui travaille à l'aide juridictionnelle, lui, il est tenu par un barème, par une unité de valeur. Et si demain, vous lui doublez sa cotisation retraite, il n'aura absolument aucun moyen de répercuter cette augmentation des cotisations sur ses honoraires. Et cet avocat-là, soit il mettra la clé sous la porte, soit il sera contraint de revoir sa copie et de ne plus accepter l'aide juridictionnelle.
Ce qui veut dire moins d'aide juridictionnelle par la suite, en tout cas.
Ce qui veut dire que, in fine, et c'est véritablement ça que, pour ma part, moi, en tant que bâtonnier, j'ai essayé de faire entendre aux juridictions et aux gens qui ont pu m'entendre en salle d'audience, c'est que à travers l'avocat effectivement sera le premier impacté, mais derrière, in fine, c'est le justiciable qui sera impacté. Parce que la justice de proximité, elle n'existera plus.
Ouais. Alors, vous mettez en avant également que les avocats ont généré un excédent. Dans ce régime de retraite autonome, 2 milliards d'euros d'excédent approximativement. Oui. Mais la profession aujourd'hui est touchée par plusieurs phénomènes de dégradation. Il y a un rapport qui a été publié en septembre 2017. Alors, peut-être qu'il date un petit peu, mais en tout cas, il est de septembre 2017, il n'y en a pas de dernier. C'est la Caisse nationale des barreaux français qui l'a publié. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il explique qu'il y a un rapport démographique dans la profession qui s'est inversé. C'est-à-dire qu'en 2006, on enregistrait presque 9 cotisants avocats pour un seul retraité, ce qui était énorme. En 2015, il y en avait 6 cotisants pour un retraité. Et en 2016, on est passé à 4,3 cotisants pour un retraité. Donc, c'est une sorte de dégringolade. Autre élément important, et là, je cite ce rapport, l'arrivée aux âges de retraite de générations féminines plus nombreuses impliquera que la caisse doive se préparer rapidement à l'afflux de demandes. C'est le deuxième élément. La profession séduit moins. Le nombre d'étudiants en droit est appelé à diminuer jusqu'en 2023. Et quatrième élément, selon une enquête de Fed Legal, en 2014, 64% des avocats considéraient leur marché d'emploi à tonnes. Bon, en tout cas, tous ces éléments pour montrer que la profession telle qu'elle a avancé aujourd'hui, elle appelait à changer dans les années futures. Est-ce que le modèle de retraite d'aujourd'hui correspondra au modèle de retraite de demain ? Et finalement, est-ce que le régime universel n'est pas finalement potentiellement avantageux ?
Alors, effectivement, hein, la profession d'avocat a beaucoup changé, hein, sur les 10-15 dernières années. Effectivement, c'est une profession qui a beaucoup changé. Vous l'avez dit, elle s'est féminisée, effectivement. Peut-être que la retraite, il y a quelques années, n'était pas forcément une question... que se posaient les avocats parce que
on poursuivait son exercice
jusqu'à ce que parce qu'effectivement tant que ça fonctionne intellectuellement on peut toujours exercer. Aujourd'hui, il est vrai que la question des retraites se pose plus. Après, est-ce que c'est parce que elle s'est féminisée? Est-ce que c'est parce que les étudiants en droit sont moins attirés par la profession d'avocat ? Je suis pas certaine. Là-dessus,
Selon vous, en tout cas, ce régime autonome tel qu'il est aujourd'hui générera toujours des excédents ?
Alors, est-ce qu'il générera toujours des excédents ? Je peux pas répondre à cette question. En tout cas, les excédents qu'on a générés jusque-là et les 2 milliards d'euros dont on dispose aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que si on continuait sur le modèle du régime autonome tel qu'il existe aujourd'hui, on serait tranquille encore au moins jusqu'à 2050.
Sauf que là, ils vont disparaître.
Sauf que... Alors, là encore, hein, c'est le flou qu'entretient le gouvernement en disant « on vous laissera vos réserves ». Mais en fait, si on regarde bien, ces réserves, on va devoir les utiliser pour permettre aux confrères les plus fragiles qui ne pourront pas donc assumer les conséquences de la réforme telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. En fait, ces réserves serviront à essayer de maintenir à flot ses confrères plus fragiles.
Ce sera une sorte de péréquation qui sera mise en place.
Donc, ce qui veut dire que finalement, ces réserves, on va les utiliser pour nous-mêmes, en tout cas pour permettre aux plus fragiles d'entre nous de perdurer. Donc finalement, on nous laisse ces réserves, mais ces réserves, elles vont finalement être très très vite utilisées et très très vite...
Et vous ne serez pas vraiment autonome, en tout cas, sur son utilisation.
En tout cas, c'est mon point de vue sur cette question et je pense qu'il est partagé par un certain nombre de confrères à ce jour.
Dernière question, je l'ai dit, vous avez démarré l'exercice de votre bâtonnat au 1er janvier. Rapidement, quels sont vos 3 objectifs ?
Alors, il est difficile aujourd'hui de véritablement avoir des objectifs à long terme parce que là, premièrement, j'entends... gérer la grève au mieux. Oui. Alors, je suis plutôt satisfaite jusque-là parce que je pense que pour un petit barreau comme les Hautes-Alpes, on a fait quand même la démonstration de ce qu'on était actifs et motivés à garder le cap concernant ce mouvement de grève. Après, moi, personnellement, en tant que bâtonnier, j'entends cultiver une certaine proximité et défense de mon barreau parce que je voudrais véritablement qu'on nous voit. Je voudrais véritablement montrer que le barreau des Hautes-Alpes, c'est un barreau jeune, vivant, réactif Et donc, du coup, j'entends accentuer la communication et je voudrais véritablement que le barreau, aujourd'hui, soit inséré dans ce qu'il est déjà, hein, mais accentuer cette insertion dans la société civile, montrer que nous sommes là, que l'avocat n'est pas forcément que un avocat qui plaide dans les prétoires, mais que l'avocat, il est là au quotidien, que vous pouvez venir trouver votre avocat dès que vous avez une difficulté, une question, un conseil à obtenir, et qu'on n'est pas forcément là en bout de course pour vous défendre dans les prétoires une fois que le litige est consommé, mais qu'on peut intervenir en amont en
c'est
qualité
un accompagnement.
De conseil.
Voilà. Merci
Donc,
beaucoup.
C'est véritablement quelque chose à laquelle je m'attacherai durant mon mandat.
La proximité. Merci beaucoup, Maître Priscilla Beautré. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.